La Bible contient pas mal d'informations, mais aussi pas mal de questions. Et de temps en temps, j'aime bien voir ces questions qui se posent et qui nous obligent d'aller chercher des réponses un peu partout dans la parole de Dieu et dans notre expérience de chaque jour. Et ce matin, je voudrais attirer votre attention sur une question que nous trouvons dans le livre de Proverbes au chapitre 18. C'est la question du verset 14. Alors c'est sûr qu'on ne peut pas, en 30 minutes, donner une réponse complète à cette question. D'ailleurs, qui peut répondre de manière complète à cette question, puisque les expériences des uns et des autres sont différentes. Mais je pense que ça nous fait du bien de commencer, en tout cas aujourd'hui, à réfléchir à cette question et à apporter quelques réponses, déjà aujourd'hui. Alors la question est celle-ci. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? L'esprit abattu, découragé, qui le relèvera? Voilà la question. Question toujours actuelle, n'est-ce pas? Combien parmi nous n'ont jamais dit aux pensées « j'en ai marre, je n'en peux plus, j'arrête, j'abandonne ». Combien de chrétiens passent 2, 3, 4 dimanches, parfois même plus, sans mettre les pieds à l'église, tout simplement parce qu'ils sont découragés, parce que le découragement, le dessèchement spirituel les a atteints. Et vous savez, quand on abandonne l'église, c'est que très souvent, on commence à abandonner le Seigneur. Les deux choses sont souvent liées. Combien viennent à l'église le dimanche, c'est peut-être le cas de certains d'entre vous ce matin, alors même qu'ils luttent contre la lassitude et le découragement spirituel, le découragement tout court. Une chose est sûre, le découragement n'épargne personne. Le découragement n'épargne personne. Tout le monde, à un moment ou un autre de sa vie, passe par là, même les plus forts d'entre nous. Et nous savons bien jusqu'où cet état d'esprit peut nous conduire. D'où l'importance de cette question, l'esprit abattu, découragé, qui le relèvera? Avant de voir les causes du découragement, en tout cas quelques-unes des causes du découragement et les remèdes, essayons d'abord de donner une définition du découragement. Je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire, mais on va le faire. Je crois que tout le monde sait que le découragement est une perte d'ardeur, de volonté, d'énergie, de courage nécessaire pour entreprendre une tâche. C'est un état d'esprit qui se traduit par l'incapacité à bouger, à réagir, à réussir quelque chose lorsque des obstacles viennent contrecarrer nos projets, nos rêves, nos visions, notre avenir. Par exemple, il y a des risques de découragement quand nos besoins quotidiens ne sont pas satisfaits et que notre lendemain devient incertain. Il y a des risques de découragement quand nous sommes confrontés à des épreuves pénibles dans le domaine du travail, de la santé ou même dans celui de nos relations familiales. Il y a des risques de découragement quand nous avons l'impression que nos prières ne sont pas exaucées. Soyons honnêtes, nous avons souvent l'impression, n'est-ce pas, que nos prières ne sont pas exaucées, etc., etc. Le découragement se manifeste souvent dans toute situation qui nous fait des soucis, qui nous écrase et qui nous fait penser qu'il n'y a pas d'avenir, en tout cas que l'avenir s'annonce sombre. Et le plus souvent, il se manifeste par une foule d'émotions négatives. La déception, la tristesse, le doute, le défaitisme, l'amertume, la lassitude. La personne découragée est abattue, triste, démoralisée, elle se sent seule. Et très souvent, elle a du mal à s'en sortir sans une aide extérieure. C'est vrai aussi qu'il y a divers degrés de découragement. Celui-ci peut prendre des formes diverses. Il y a, je dirais, le découragement d'un jour ou de quelques jours, le découragement passager, n'est-ce pas, qui passe aussi vite qu'il est arrivé, une bonne nuit de sommeil, et voilà, c'est reparti. Et il y a le découragement profond, aggravé, le découragement de longue durée, le découragement qui persiste et signe, le découragement qui se traduit souvent par un état de déprime, de dépression et le désir même de mourir. Dans une telle situation, la personne découragée est très vulnérable. Très vulnérable car elle se sent acculée dans une impasse, incapable de faire quoi que ce soit pour s'en sortir. En regardant dans la Bible, on constate que le découragement existe depuis toujours. Ce n'est pas nouveau. Aussi étonnant que cela puisse paraître, on trouve chez pas mal de personnages bibliques des serviteurs de Dieu consacrés, des gens qui vivaient vraiment en communion avec Dieu. Et on les voit à un moment ou à un autre de leur vie, ils sombrent dans un découragement profond, au point même de ne plus avoir de force pour lutter et sortir de la situation dans laquelle ils se trouvent. Mais on remarque aussi que c'est la relation qu'ils ont avec Dieu qui leur a permis de sortir de cette situation et de remporter la victoire sur cet état d'esprit qui les paralysait. Je vais citer quelques exemples que vous connaissez sans doute. Moïse, le grand leader du peuple d'Israël, en certains moments de son ministère, à bout de force, ayant la sensation de porter tout seul la charge de son peuple, il est complètement découragé, il demande à Dieu de mourir. Il n'en peut plus. Josué, son successeur, le successeur de Moïse, après avoir remporté une victoire incroyable, la prise de Jéricho, Josué et son armée arrivent en droit, ils sont vaincus par des peuples ennemis, infiniment plus faibles en nombre qu'eux. Ils perdent 36 hommes dans le combat. Ils sont obligés de prendre la fuite, de battre en retraite devant l'ennemi. Et voilà que Josué, complètement découragé, se met à déchirer ses vêtements, à couvrir sa tête de poussière et à se coucher toute la journée, le visage contre terre. Cet homme de foi, lui aussi, s'est laissé entraîner dans l'engrenage du découragement. Job, dans sa souffrance, exclamait « Mon âme est dégoûtée de la vie ». Et on pourrait citer d'autres exemples, beaucoup d'autres exemples, Jérémie, Jonas, David, les disciples, et d'autres, n'est-ce pas, qui ont eu tous leurs moments de découragement terribles. Comme quoi, on peut avoir une vie spirituelle très riche, faire beaucoup de choses au nom du Seigneur, recevoir sa puissance, sa bénédiction, et malgré cela, tomber pour telle ou telle raison dans un découragement profond, dans le découragement le plus complet, et être incapable de s'en sortir tout seul sans une aide extérieure. Je lisais l'autre jour qu'en France, près de 50% des pasteurs qui sortent des facultés de théologie et des instituts de formation théologique abandonnent le ministère dans les 5 premières années. Dans les 5 premières années, le découragement est une des causes principales. Et finalement, il n'y a rien d'étonnant à cela, car comme on vient de le voir, les grands personnages de la Bible sont passés par là aussi. L'esprit abattu, découragé, qui le relèvera? Même si le découragement est une réaction naturelle et légitime, on sait aussi qu'il est l'une des armes puissantes que le diable, notre ennemi, utilise pour nous faire du mal. Il utilise contre nous pour nous amener à ne plus nous appuyer sur Dieu, à abandonner même Dieu. C'est même son arme favorite, car c'est elle qu'il a utilisée depuis toujours, contre le peuple de Dieu, à travers les temps. Je lisais un jour une petite histoire, je pense que je l'ai déjà racontée. C'est l'histoire dont le titre est « L'outil du diable ». Un jour, fatigué, le diable décide de prendre sa retraite. Comme sa couverture sociale n'était pas suffisante, comme quoi ce n'est pas uniquement en France qu'il y a des problèmes de ce genre, le diable décide, pour arrondir ses fins de mois, de vendre sa trousse à outils. Tout était là. La méchanceté, l'envie, la jalousie, la haine, l'avidité, la suffisance, le mépris, le cynisme, etc., etc. Mais il y avait un outil qu'il avait écarté, qu'il avait mis à part et qui semblait beaucoup plus usé que tous les autres. Intrigué, en passant, lui demande « Qu'est-ce donc que cet outil et pourquoi le vendez-vous beaucoup plus cher que tous les autres ?» Et le diable répond « C'est le découragement. C'est le découragement. Je le vends beaucoup plus cher car c'est l'outil le plus efficace à enfoncer dans le cœur de quelqu'un. » Et lorsque le découragement a été introduit dans le cœur de la personne, il est beaucoup plus facile d'introduire tous les autres outils, n'est-ce pas, quels qu'ils soient. Voilà l'arme fatale du diable, n'est-ce pas, le découragement. Voilà la tactique du diable, il attaque l'esprit des gens par le biais du découragement et à partir de là, il peut faire finalement ce qu'il veut avec la personne. Parce que la personne n'est plus en état de résister, de lutter. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous met en garde les chrétiens de veiller pour ne pas laisser le découragement entrer dans leur vie. Parce que ça peut amener très loin. Quand on sait que le diable se sert de cette arme fatale, n'est-ce pas, comme un outil pour faire son œuvre maléfique, il faut rester vigilant, nous dit la parole de Dieu. Rester vigilant et être prêt à faire le nécessaire pour ne pas se laisser prendre dans ses filets. Ceci dit, frères et sœurs, j'ai l'impression que le découragement est souvent le symptôme d'un autre problème. Le symptôme d'un autre problème peut-être encore plus profond. Il y a un terrain sans doute propice au découragement. Et il faut être attentif à cela. Il y a des éléments déclencheurs, j'ai l'impression, qui ouvrent finalement la porte au découragement. Le découragement, on pourrait le comparer au voyant lumineux, n'est-ce pas, sur le tableau de bord de nos voitures. Il nous avertit que quelque chose ne va pas dans notre vie. Et quand il s'allume, il faut faire très attention. Ça coûte cher, n'est-ce pas, quand le voyant, par exemple, du radiateur de notre voiture s'allume, nous indiquant qu'il n'y a plus d'eau dans le radiateur. Hein? Ça m'a coûté cher lorsque l'un de mes enfants, je ne vais pas citer le nom, a fait quelques centaines de mètres de trop avec le voyant allumé. Le moteur a été abîmé, n'est-ce pas? Et j'ai dû remplacer pas mal de pièces dans le moteur de la voiture. Dans notre vie, c'est un peu la même chose. Lorsque le découragement s'allume, c'est qu'il y a eu un terrain propice à cela. Alors, c'est vrai que peut-être dans le découragement, on n'est pas toujours capable d'analyser ces choses-là. Il faut peut-être de l'aide, il faut même l'aide de quelqu'un d'autre. Mais il faut analyser ces choses. Il faut savoir analyser les causes réelles du découragement, les mécanismes qui ont fait que je suis arrivé là, dans cette situation de découragement. Les mécanismes qui conduisent au découragement, les symptômes, et ensuite essayer de prendre les mesures qui s'imposent pour sortir du découragement. Or, il faut être conscient que les causes du découragement peuvent être multiples, et sans doute que je ne vais pas, c'est impossible de les citer tous. Les situations sont différentes. Mais quelles sont les causes? Quels sont les éléments déclencheurs qui ouvrent la porte au découragement? Il y a sans doute des signes précurseurs dans nos vies. Des facteurs prédisposants, aggravants même. Si nous pouvons identifier ces facteurs, si nous sommes capables d'examiner, de voir ces signes d'avance, je pense que nous serons mieux comprendre, n'est-ce pas, ce qui arrive. Nous serons mieux à même de comprendre ce qui arrive et de trouver des mesures préventives avant qu'il ne soit trop tard. Prenons un exemple très connu de découragement dans la Bible. Le grand prophète Élie, n'est-ce pas? Le grand prophète Élie, à qui Dieu a permis de faire des miracles extraordinaires. Dieu l'a établi, c'est vrai, comme prophète en Israël durant une période très difficile. Période très difficile où les mauvais rois se succédaient les uns aux autres et où le peuple avait complètement oublié Dieu. Et Élie a dû faire face au pire roi que ces temps obscurs ont connu, le roi Akab. Or Élie, au péril de sa vie, il a défié le roi Akab. Il a été capable de défier le roi Akab. Il accuse d'être responsable de la déchéance spirituelle du peuple de Dieu. Et il fait face avec courage à sa colère, à ses menaces de mort. Puis, il est aussi capable de défier des centaines, 850 prêtres de Baal et d'Astarté réunis contre lui. Il se trouve seul face à eux et il est capable de leur lancer un défi, voir quel Dieu est le vrai Dieu, celui d'Israël ou celui de Baal. Et le récit biblique nous montre que Élie a gagné le défi avec Dieu, n'est-ce pas? Car Dieu a répondu à sa prière. Dieu a fait tomber la foudre du ciel sur son bûcher. Il a été même capable de se moquer de ses prophètes. Ensuite, le texte nous dit que finalement, il massacre les prophètes idolâtres et conduit immédiatement après un réveil spirituel du peuple de Dieu. Bon, on est à une autre époque, n'est-ce pas? Mais après cela, on voit le prophète prophétiser que la sécheresse qui dure depuis 3 années va s'arrêter. Il prie pour que Dieu envoie la pluie, il fait confiance et Dieu envoie la pluie, Dieu répond à sa prière. Et beaucoup d'autres miracles. Bref, on peut dire qu'Élie était un homme exceptionnel, un homme vraiment d'une foi exceptionnelle, une foi inébranlable en Dieu, un homme qui mettait en pratique ce que Dieu lui disait. Or, après tout cela, il y a eu quelque chose qui est arrivé dans sa vie. Alors qu'il semblait être au summum, on pourrait dire, de son ministère, n'est-ce pas, avec cette puissance que Dieu a mis dans sa vie, après avoir accompli tous ses miracles, cet homme habité par l'Esprit de Dieu va vaciller. Il va vaciller. Il va succomber au découragement. Il reçoit une lettre de menace de la femme du roi Akab, Jézabel, qui était aussi prêtresse de Baal. Et Élie, qui avait fait face à d'autres menaces avec foi, courage, détermination, là, maintenant, avec cette lettre de menace, il craque. Il va se laisser impressionner par les menaces de cette femme. Et le texte biblique nous dit qu'il prend la fuite, il sombre donc dans un découragement profond. Peut-être ça vaut la peine de lire juste le verset 3 de 1 roi 19 où l'auteur nous explique ce qui s'est passé. Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Il s'enfonça dans le désert où après une journée de marche, il s'assit à l'ombre d'un genêt isolé et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant Éternel, prends-moi la vie ». Car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » Alors, l'auteur biblique ne raconte pas tout, mais l'arrière-plan, selon l'auteur, c'est la peur, n'est-ce pas? C'est la peur. La peur, on le sait bien, est souvent derrière, n'est-ce pas? En tout cas, plus qu'on ne le croit, derrière le découragement. Mais la peur, je dirais, n'arrive pas comme ça. La peur n'arrive pas comme ça. Il y a souvent un contexte propice à la peur, un contexte qui va favoriser la peur. Et c'est vrai que les mots parfois font peur, n'est-ce pas? Il y a des mots qui tuent, n'est-ce pas? Mais dans le cas d'Élie, on peut s'interroger. Il n'a pas eu peur de défier le roi Akab. Il n'a pas eu peur de défier le roi Akab. Il n'a pas eu peur des prophètes, des centaines de prophètes de Baal et d'Astarté. Alors pourquoi avoir peur maintenant de la femme du roi, au point de prendre la fuite, de s'isoler, de désirer même la mort? Nous n'avons pas le temps ce matin de voir tout ce qui est arrivé. Nous allons revenir bientôt sur cette question-là. Mais ce qu'on peut dire ce matin, c'est qu'un peu plus loin, on voit Élie laisser transparaître quelques signes propres au découragement. On le voit bien dans le texte, la peur, l'abattement, la démotivation, le défaitisme, le pessimisme, l'isolement, le repli sur soi, perte d'objectivité, incapacité à voir les choses, la réalité des choses telles qu'elles sont, tendance à l'exagération, sensibilité exacerbée, image négative de soi, de ce qui se passe autour, et désir de mourir. Voilà toutes ces choses. Voilà les symptômes du découragement. Voilà les signes précurseurs qui doivent nous alerter, n'est-ce pas? Ceci dit, je pense qu'à la base, tout cela, finalement, n'est que le signe d'un épuisement profond de la part de ce prophète. Un épuisement profond dans lequel Élie se trouvait. J'ai l'impression que cette menace de Jézabel est arrivée à un moment où Élie était vraiment fatigué. Le texte ne le dit pas, mais quand on lit l'ensemble des textes de un roi, on peut comprendre qu'Élie devait être vraiment fatigué. Il avait emmagasiné depuis un certain temps pas mal de tensions, pas mal de stress à cause de tous les combats qu'il a dû mener contre Akab et contre les prophètes de Baal. Des combats qui ont exigé beaucoup d'énergie de sa part. Cela a nécessité l'investissement de toute sa personne, tant sur le plan physique qu'émotionnel et spirituel. On parle souvent du surmenage, n'est-ce pas, de nos jours, mais je pense que c'est ce qui s'est passé avec Élie. Le surmenage, la pression ont été trop forts à supporter. Et ce message d'Isabelle n'est en fait que la goutte qui fait déborder le vase. L'étincelle qui va déclencher ce sentiment d'impuissance et de désespoir face à la menace de cette femme. Je crois que probablement Élie n'a pas fait attention à ces signes précurseurs. Parce que c'est vrai que quand on est dans le combat, on se sent parfois assez fort et on va jusqu'au bout. On ne sent pas la douleur, mais c'est après. Et donc, si Élie n'a pas fait attention à ces signes précurseurs qui l'ont conduit dans cet état de faiblesse, il ne faut pas s'étonner qu'après, il soit dans cet état. Élie n'a pas pris conscience, finalement, de ses limites personnelles. Il n'a pas pris conscience de ce qu'il pouvait supporter émotionnellement et physiquement. Il a sans doute... Pendant un certain temps, je ne sais pas combien de temps, arrêter de mener une vie équilibrée. Et on sait bien que si on ne mène pas une vie équilibrée, là, on a ce qu'il faut vraiment pour tomber dans le découragement profond. Quand on arrête de mener une vie équilibrée, quand nous tentons de maintenir un rythme de vie trépidant, n'est-ce pas, semaine après semaine, en dépit de notre fatigue physique et émotionnelle, on devient souvent vulnérable. On devient une proie facile au découragement et à la dépression. Physiquement et émotionnellement exténués, nous sommes des candidats tout désignés au découragement et à la dépression. N'oublions pas que notre corps garde le compte de toutes les angoisses que nous ravalons. C'est ce qu'a connu, me semble-t-il, Élie, mais d'autres aussi dans l'Ancien Testament, comme Moïse, n'est-ce pas, qui ont dû apprendre à trouver un équilibre, à se reposer, à arrêter un petit peu, à ne pas vouloir tout faire tout seul, à donner déléguer des responsabilités à d'autres. Parce que le repos fait partie de la vie aussi, n'est-ce pas? Notre corps n'est pas de fer, n'est-ce pas? Le cas d'Élie me fait penser à beaucoup de cas d'épuisement physique, émotionnel et spirituel vécu par beaucoup de personnes aujourd'hui, et même dans nos églises. C'est vrai que les combats que nous menons sont parfois très durs, il faut le dire, et les combats des uns et des autres sont différents, mais chacun de nous mène des combats dans sa vie, n'est-ce pas? Et on le sait bien, la vie n'est facile pour personne. Chacun de nous a ses difficultés. Il y a des défis qui nous semblent parfois impossibles à surmonter. Je crois que ça arrive à tout le monde. Il y a des épreuves, des échecs, des frustrations. Lorsqu'on est, par exemple, submergé par le travail et qu'après avoir beaucoup travaillé sur tel ou tel projet, le projet n'aboutit pas. Ça tombe à l'eau. C'est une frustration terrible et je crois que ça arrive à beaucoup d'entre nous, n'est-ce pas? On se sent frustré. Après, il y a d'autres choses. Il y a les injustices que nous subissons. Ça arrive dans une société comme la nôtre, n'est-ce pas? Il y a les tentations. Nous, les chrétiens, n'est-ce pas? Nous passons par des tentations parfois très fortes. Nous avons du mal à résister à ces tentations. Peut-être que je pourrais ouvrir ici une petite parenthèse pour dire, vous, mesdames, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'hommes parmi nous qui arrivent à la quarantaine, mais vous, mesdames, sachez une chose, c'est que quand on arrive à la quarantaine, quand vos maris arrivent à la quarantaine, ça peut commencer autour de 35, 37, 38 ans, n'est-ce pas? Il y a ce que certains appellent la CMV, n'est-ce pas? La crise du milieu de vie qui peut attendre et qui attend souvent les hommes à cet âge-là. Et qui peut durer quelques semaines, quelques mois, voire quelques années. Donc, peut-être qu'un jour, on pourrait inviter notre Saint Frédéric à faire une étude avec les dames sur ce sujet-là. Ça vaut la peine de savoir comment entourer vos époux, n'est-ce pas, pendant cette période difficile. C'est aussi une période parfois de découragement terrible dans la vie. Ça peut arriver. Je pense que ça va passer par là aussi. Mais bon, maintenant, je commence à être... c'est un souvenir du passé. Merci Seigneur. Nos découragements proviennent souvent de toutes ces choses, mais aussi de notre mauvaise gestion de nos ressources humaines et spirituelles, n'est-ce pas? De nos fatigues, car fatigués, nous sommes dans l'incapacité de gérer les situations difficiles. Il nous arrive aussi de ne voir aucun but derrière les événements de notre vie. Il y a des moments où on ne voit pas quel est l'objectif, n'est-ce pas? Quel est l'objectif de ma vie, finalement? Il y a des moments où tout nous semble arbitraire, sans espoir ou injuste. Là, c'est aussi souvent la voie ouverte au découragement et même à la dépression. On sait qu'une vie sans raison d'être et sans perspective est déprimante. C'est pourquoi Dieu a remédié, par exemple, au découragement de Jonas. Vous pouvez lire le livre de Jonas et vous allez voir, n'est-ce pas, en l'aidant à voir le tableau d'ensemble. Voir le tableau d'ensemble. La mise en perspective est souvent un remède puissant, n'est-ce pas? Et quand Jonas a compris le but de Dieu pour sa vie, le découragement a disparu. Quand on voit l'actualité de notre monde, les choses terribles et mauvaises qui se passent dans le monde, il y a des motifs vraiment au découragement, même pour nous les chrétiens. Heureusement qu'on a la parole de Dieu qui nous montre que Dieu conduit l'histoire, que Dieu est en train de créer un peuple, son peuple pour l'éternité, n'est-ce pas, la nouvelle société, et donc il y a un objectif. Et donc nous les chrétiens, avec cette espérance, nous pouvons garder l'espoir, malgré tout le mal qui se passe. C'est bien de penser à ces choses-là. Alors, le temps avance et il faut répondre à la question, qui relèvera l'esprit abattu, découragé? Certes, nous pouvons compter sur l'aide de Dieu. Sur l'aide de Dieu. C'est lui qui peut venir à notre secours. Et nous avons le témoignage dans la Bible, et pas seulement dans la Bible. Je pense que si je demandais aux uns et aux autres de témoigner, vous pourriez souvent dire la même chose. De témoignages, pas mal de personnes qui racontent ce que Dieu a fait dans leur vie pour les réconforter, pour les encourager, pour les relever, pour les faire sortir du découragement. On voit bien que c'est Dieu qui a relevé Moïse, Élie, Josué, David et beaucoup d'autres. Il s'est manifesté à eux. Il leur a fait redécouvrir sa personne, son œuvre. Il leur a redonné confiance. On remarque que dans la Bible, chaque fois que Dieu confie une mission à quelqu'un, il lui dit « Ne crains pas, je suis avec toi ». Ça apparaît souvent dans la Bible. « Ne crains pas, je suis avec toi ». Lorsque Moïse a intronisé son successeur Josué, il lui a dit « Prenez courage, tenez bon. Ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer par vos ennemis, car l'Éternel, votre Dieu, marche lui-même avec vous ». Il ne vous délaissera pas et ne vous abandonnera pas. Ils sont nombreux, les témoignages, et pas seulement dans la Bible, comme je disais, qui confirment que Dieu fait son œuvre son œuvre d'encouragement, n'est-ce pas? Son œuvre d'encouragement. De nombreux textes bibliques confirment qu'effectivement, Dieu est à l'œuvre pour nous aider, n'est-ce pas? Pour nous remonter le moral, pour nous tirer de cette situation difficile qu'est le découragement. Il y a pas mal de psaumes que je pourrais citer, mais permettez-moi de citer juste une parole dans psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ce que Dieu a fait pour ces personnes, Dieu peut et veut le faire pour chacun de nous. Nous pouvons donc lui demander de nous relever. Nous pouvons lui demander de nous donner une énergie nouvelle, une nouvelle confiance à lui, en lui, une foi renouvelée. C'est lui qui a dit par la bouche du prophète Ésaïe, « Sois sans crainte car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. » C'est intéressant de voir les moyens que Dieu utilise souvent pour nous remonter le moral. Dans un monde de personnes, Dieu utilise les personnes. Hein. Bon, il utilise aussi parfois d'autres moyens, mais il utilise des personnes aussi pour nous relever. Dans le cas d'Élie, il a envoyé un ange pour lui préparer à manger. Élie avait besoin de dormir et de manger. Hein. Dormir et manger. Et Dieu lui a envoyé un ange lui préparer à manger. Dans le cas de l'apôtre Paul, Dieu lui a envoyé Tite. Et Paul a pu témoigner, mais Dieu qui réconforte ceux qui sont abattus, nous a réconfortés par l'arrivée de Tite. L'arrivée de quelqu'un qui réconforte, qui donne le moral. Il y a des moments où nous avons vraiment besoin que Dieu nous envoie un ange, n'est-ce pas? Un Tite pour nous encourager et nous réconforter. Et il le fait, il le fait. Ceci dit, n'oublions pas que Dieu nous a donné l'Église. Dieu nous a donné des frères et des sœurs, parmi lesquels il y a des personnes qui ont le don de l'encouragement. Et dans notre Église, il y en a qui ont le don de l'encouragement. Nous avons dans notre Église des personnes que le Seigneur a mises à part pour écouter ceux qui passent par des moments difficiles, pour prier, pour les accompagner. Vous savez que le ministère des anciens de l'Église, Eric et moi, c'est ça aussi, n'est-ce pas? C'est pas simplement la prédication, mais c'est être à l'écoute des uns et des autres. De prier, nous n'avons pas, bien sûr, de solution à tous les problèmes, mais nous pouvons écouter, nous pouvons prier, n'est-ce pas? Et peut-être nous pouvons faire d'autres choses pour aider. Nous avons Sandra et Frédéric aussi, n'est-ce pas? Que nous voulons mettre à part pour ce ministère de l'écoute, de la prière, de l'accompagnement spirituel. Et n'hésitons pas à leur faire appel dans des situations difficiles, parce que beaucoup de personnes peuvent témoigner que leur écoute leur a fait du bien. Donc allons aussi vers Sandra et Frédéric pour partager nos difficultés. Ceci dit, il y a des choses que Dieu veut que nous fassions nous-mêmes. Oui, des choses que Dieu veut que nous fassions nous-mêmes. Déjà, si nous pouvons identifier les signes d'avance, comme je disais tout à l'heure, n'est-ce pas, nous serons mieux à même de comprendre ce qui se passe et de prendre peut-être des mesures préventives pour ne pas laisser les choses s'aggraver dans nos vies. Mais il faut le dire, il y a des choses qui dépendent de nous. Nous les verrons prochainement. Mais déjà ce matin, nous pouvons dire ceci. Lorsqu'on est découragé, essayons de ne pas nous isoler. Essayons de ne pas nous couper des autres frères et sœurs. Allons, si possible, vers quelqu'un de confiance pour partager ce que nous ressentons. Car quand on s'isole, on se replie sur soi. On se referme et on perd parfois la possibilité d'être aidé. Il y a un verset dans Ecclésiaste qui dit « Deux valent mieux qu'un, car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. » Nous avons besoin les uns des autres. Nous ne pouvons pas nous suffire à nous-mêmes. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous exhorte à veiller les uns sur les autres. « Encouragez-vous les uns les autres, » dit le texte biblique d'Hébreux chapitre 3. Encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne se laisse tromper par le péché et ne ferme son cœur à Dieu. Le monde dans lequel nous vivons est un monde difficile, un monde de violence, n'est-ce pas ? Un monde où il y a pas mal de choses qui favorisent le découragement. Et chacun de nous a besoin d'un lieu, d'un temps pour recharger ses batteries spirituelles, physiques, émotionnelles. Nous avons besoin d'amis qui nous aident et qui nous entourent, n'est-ce pas ? L'esprit abattu, découragé, qui le relèvera ? Dieu, nous-mêmes et nos amis.